Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En entame de cette édition sur Radio Kapi, notre permanent dans le Nord Kivu, Denis Lukeso, nous peint un tableau de la situation sécuritaire dans le territoire de Masisi, qui d'après la société civile s'améliore tant soit peu et encourage de ce fait les FRDC. La baie de Ngaliema n'est pas un endroit où il faut construire. Ne vous hasardez pas à vous y procurer un quelconque terrain au risque de tomber dans ce que le ministre d'État à l'urbanisme et habitat et son collègue des affaires foncières qualifient de gabegie foncière. Des précisions dans cette édition. Il est chef adjoint de la MONUSCO en charge des opérations et protections. Kassim Diane intervient en fin de cette édition comme invité. Ce sera pour parler du sens de sa mission d'itinérance à Ouvira qu'il a clôturé hier vendredi. Fidèles auditeurs, maintenez cette fréquence de Radio Okapi pour les détails de cette édition de ce soir. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation, Billy Ivan Lutumba. Nord Kivu, la situation sécuritaire dans une grande partie du territoire de Masisi est relativement calme. Ce, en dépit des quelques poches de résistance des groupes armés, notamment la milice de Maachano, active dans le groupement Ufamandu. La société civile territoriale note la reprise par l'armée des quelques villages jadis occupés par les milices locales, sans oublier la reddition en masse des combattants de quelques groupes armés, fruit des sensibilisations par les autorités administratives locales. Cette organisation citoyenne recommande à l'armée de maintenir cet élan des opérations afin d'en finir avec ces groupes armés. L'armée, quant à elle, rassure. Denis Lukeso.
Télésphore Mitondeke, secrétaire général de la société civile de Masisi, présente la situation sécuritaire dans ces territoires sous deux facettes. D'une part, cette accalmie relative qui s'observe dans une grande partie de la chefferie de Bachali et dans la commune rurale de Masisi Centre. Selon lui, ce calme relatif est le résultat des opérations militaires de traque contre les groupes armés. Et d'autre part, il parle de l'activisme des Machano dans les accès Ufamandu, Nyabiondo, Mianja et dans une partie du groupement Banyungu. Les animateurs de cette organisation encouragent et félicitent l'armée dans la reprise de plusieurs endroits occupés jadis par l'APCLS et différentes factions Nyatura. Ils demandent à cet effet à l'armée de ne pas baisser la garde.
Nous pouvons citer par exemple une partie du groupement Buabo, Banyungu, une partie du groupement de Bafuna, qui jadis était occupé par les milices APCLS, Nyatura, à l'armée, en tout cas de ne pas toujours attendre qu'elle fasse la défensive, mais de passer à la vitesse.
Pour les porte-parole de Sokola 2, tous les mécanismes sont déjà activés, de manière à en finir avec tous les groupes armés dans les Masisi, comme aux environs. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Nous restons dans la même province avec Denis Lukeso pour parler de l'état de siège qui ne concerne pas seulement les militaires et les policiers. Toute la population doit mettre la main à la pâte pour le retour de la paix au Nord Kivu. C'est l'essentiel du message du porte-parole de la 34e région militaire aux conducteurs des mototaxis de Goma ce samedi. Par cette sensibilisation qui a touché des dizaines de motards, l'armée veut voir l'implication de cette couche de la population aussi importante pour sa réussite, notamment en dénonçant l'ennemi qui s'infiltre dans la population après sa fuite dans la profondeur. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko est au micro de Denis Lukeso.
Alors qu'il est, l'ennemi est en train d'être traqué en profondeur et il a tendance à revenir en surface pour s'infiltrer dans la population. Et la population que l'ennemi cible, c'est beaucoup plus les motards et les tchoukoudeurs. Ils s'improvisent en motards et du coup, on a tendance à ternir l'image des motards et des tchoukoudeurs. Vu que c'est une couche très importante de la population, il fallait que cette couche soit sensibilisée, que cette couche comprenne c'est quoi l'état de siège et quel est l'état final recherché par les autorités en décrétant l'état de siège. Les motards doivent aussi comprendre c'est quoi l'état des sièges et comment est-ce qu'ils peuvent apporter une pierre pour la construction de cet édifice qu'on appelle paix. Donc c'est une couche très importante et nous avons pensé qu'il était vraiment opportun parce que les opérations sont en train de prendre une vitesse de croisière. Donc il est très important que cette couche soit sensibilisée et qu'ensemble nous puissions mener à bon port l'état des sièges décrété par le chef de l'État.
Vous suivez Radio Kapi, les 18h05 à Kinshasa et 19h05 au sud Kivu, où on parle de cette ville morte ce samedi sur toute l'étendue de la ville de Baraka. La population civile locale a répondu à l'appel lancé par la société civile et de la Fédération des entreprises du Congo de cette ville pour contester le départ ou la relève des troupes du 2202e régiment des FRDC de cette ville. Toutes les activités sont restées paralysées, pas de circulation sur les différentes artères de la ville, commerce et boutiques, tout est resté fermé. Pour l'instant, aucun incident majeur n'a été enregistré, comme nous le dit Fiston Goma.
Le principal marché à Ebaz, qui accueille les produits du lac, poissons, braises et manioc en provenance de Loubouari, ainsi que le parking des camions et motos au centre-ville sont déserts. L'ambiance est morose, même sur la route nationale numéro 5 qui relie cette ville au chef-lieu du territoire de Fizi. Le président de la société civile Force Vive estime que le 2202e régiment de FRDC a réussi à réduire à 95% et en l'espace d'une année les tendances d'incidents de protection et de violation des droits de l'homme qui avaient élu domicile dans la zone. Et Tunda Maisha Albert.
Parce qu'il y a des unités qui ont fait 5 ans, 7 ans, mais il y avait toujours l'insécurité. Mais l'unité qui a encore une année, vraiment Baraka est bien stabilisé, c'est un peu difficile d'accepter leur mutation.
Le secteur opérationnel Sokolade au sud du Sud Kivu de son côté signale que toutes les unités combattantes des FRDC ont la même mission de protéger la population et ses biens. Le major Dieudonné Kasereka, porte-parole des FRDC de la zone, appelle la population à vaquer à ses occupations.
Il faut préciser que toutes les unités de l'armée travaillent bien, sauf qu'il y a des bavures, peut-être que certains éléments qui ces bavures doivent être justifiés par leurs commandants.
La société civile envisage d'autres actions dans un proche avenir d'Ouvira Fiston au Mamayaba. La Radio Okapi.
Nous parlons aussi sécurité en Ituri où plus de 20 personnes ont été arrêtées vendredi par les FARDC à Baïti. Nous sommes là à 3 km de Komanda et transférés à la justice militaire. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, ces personnes soupçonnées d'être des connivences avec la milice FPIC sont accusées d'être à l'origine du lynchage d'un lieutenant des FARDC la nuit des jeudi à vendredi lors de l'attaque de la cité de Komanda par des ADF. Cependant, des notables de la communauté locale plaident pour la libération de ces personnes qu'ils considèrent comme des innocents. Abounia Martial Kizabia Mungu.
Dans la nuit de jeudi, selon des sources concordantes, lors de l'attaque de Komanda par des ADF, ce lieutenant de FRDC serait allé porter secours à son épouse au lieu des refuges dit Axe Pont Ituri. Arrivé à Baïti, à 3 km de Komanda Centre, et dans la confusion de jeunes en colère qui manifestaient contre cette énième attaque de rebelles, cet élément de FRDC sera pris en partie par des manifestants qui ravissent son arme. L'information est confirmée par des sources sécuritaires. Cette bande de jeunes, dont certains appartiendraient à la milice FPIC, va lyncher ses militaires avant de jeter son cadavre dans la toilette. C'est vendredi que l'armée a été mise au courant de la nouvelle. Son porte-parole à Ituri indique qu'après une descente sur le terrain, les forces loyalistes ont arrêté puis acheminé plus de 20 personnes à la justice militaire pour décourager de telles pratiques. Le lieutenant Gilles Ngongo.
C'est condamnant de cette façon parce que notre vie commerce, ce sont les adeptes que nous nous menons tous les jours.
Cependant, pour des notables de la communauté locale, les suspects arrêtés n'ont rien à voir avec ces drames. Ils demandent leur libération immédiate car selon eux, ce sont des innocents. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Retour dans la province du Nord Kivu, la société civile d'Erengeti souhaite la création d'emplois dans cette agglomération du territoire de Beni pour pouvoir occuper les jeunes. Elle regrette notamment que les organisations qui s'implantent sur place amènent des employés alors que, selon elle, il existe des compétences localement. Écoutez, bravo Muhindo Vukulu, président de la société civile d'Erengeti, joint au téléphone par Guylaine Kasasia.
La jeunesse de Erengeti, c'est une jeunesse qui est victime de tout, parce que c'est une jeunesse qui n'a pas d'occupation. Ils sont là, comme les jeunes filles, qui cherchent à gagner leur vie à travers leur corps. Et vous verrez que notre maternité actuelle, il n'y a que des jeunes filles qui devraient être à l'école, mais aujourd'hui, elles sont obligées d'être appelées maman. Pourquoi? Parce qu'elles cherchaient comment gagner leur vie. Même les jeunes garçons, c'est toujours comme ça. Vous avez votre grade, vous êtes éligible sur toutes les activités qui se passent, soit dans les territoires, soit dans la province. Mais ici, à Erengeti, tout le monde est négligé. Voire même les ONG, ils nous arrivent avec les agents déjà recrutés ailleurs. Et ils viennent ici, seulement ils nous donnent la place des manutentionnaires. Et pourtant, Erengeti a une ressource humaine qui peut aussi remplir certaines tâches. Nous sommes en train de lancer un appel au gouvernement congolais, même aux autres personnes de bonne volonté, de voir comment ils peuvent nous lancer aussi des activités ou des engins pour pouvoir peut-être occuper ces jeunes, que la jeunesse est inoccupée. Et ça les pousse à faire des actes d'irresponsabilité.
Deuxième titre de cette édition sur Radio Okapi. Le ministre d'État à l'urbanisme et habite et son collègue des affaires foncières ont effectué ce samedi une descente conjointe sur le site de l'abbé de Ngaliema dans la commune portant le même nom. Pius Mwabilo et Molendo Sakombi, accompagnés des experts de leur ministère, veulent mettre fin à ce qu'ils qualifient de la gabégie foncière et urbanistique qui a élu domicile en RDC. Sur place à l'abbé de Ngaliema, le constat est amer. Le terrain est spolié de bout en bout. D'après le ministre d'État à l'urbanisme et habitat, cette zone est non édificandi, et c'est-à-dire on ne peut pas y construire. Ceux qui s'y aventurent vont perdre. Pius Mwabilo est au micro de Jacques-Yves Molima.
Ce qui est mieux à faire à cet instant, c'est d'abord faire rapport à tous les droits, comme mon collègue des affaires foncières venait de le dire ici, et prendre des mesures préventives. Que tout celui qui a un document quelconque vienne montrer ce document-là avant qu'il ne commence quoi que ce soit, qu'il continue à travailler sur le terrain. Et de toutes les façons, c'est la zone 3, la corniche. Tous les compatriotes qui sont venus s'aventurer ici devraient savoir que, qu'ils le veuillent ou non, ça sera rasé. Donc, ça ne sert à rien qu'ils puissent gaspiller leur argent. L'état des droits, ce n'est pas une chimère. L'état des droits, c'est une réalité. Personne n'est au-dessus de la loi. Parce que tous les noms que vous nous citez ici, là, ce sont des personnalités qui ont été ministres. Ce sont des noms connus. Il faut que ça s'arrête.
Toujours ici à Kinshasa, on parle électricité. L'accès à l'énergie électrique pour tous en RDC doit être une réalité et non un slogan, indique Maître Eric Kasongo, porte-parole du réseau Mwangaza. Déclaration en fait au cours d'un point de presse tenu hier à Kinshasa. Pour le porte-parole de cette structure, le gouvernement doit encourager les investisseurs dans ces secteurs et amender le cadre légal qui régisse le domaine de l'énergie électrique en RDC. Il est au micro de Tati Mapoukou.
Pour booster l'accès des Congolais à l'énergie, il faut que le gouvernement puisse bien regarder le cadre légal et rectifier là où ça doit être rectifié. Mais aussi, il faut que les structures qu'il a mises en place pour faciliter l'accès à l'énergie, nous avons parlé de l'ANSER et de l'autorité de régulation, soient dotées de moyens conséquents pour leur permettre de faire leur travail, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, il faudrait que, non seulement dans les cadres du budget qui doit être élaboré, mais aussi dans le cadre des incitations positives, au niveau, par exemple, des banques commerciales, on puisse permettre à ceux que les investisseurs qui viennent prêter à l'État puisse accéder facilement au financement pour pouvoir financer des projets de type micro-centrales hydroélectriques ou encore création de parcs solaires. Mais bien au-delà, ce que nous demandons, c'est vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités et n'est pas habitué les Congolais à annoncer l'amélioration de l'accès à l'énergie comme un slogan qui ne s'accompagne pas des mesures concrètes.
Parlons à présent de cet autre son de cloche en rapport avec la fermeture des facultés de médecine dans certaines universités. Pendant que plusieurs voix s'élèvent pour protester contre la décision du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire concernant la fermeture de la faculté de médecine dans plusieurs universités du pays, au Kwilu, dans la ville de Kikwit, la société civile de la commune de Lukolela salue fermement cette décision. Dans un entretien ce samedi 25 septembre avec Radio Okapi, son président Alain Laoui soutient la position par le fait que le champ d'action de cette faculté, c'est le corps humain, d'où un médecin ne doit pas être formé par n'importe qui et n'importe où. Il félicite le ministre de l'Essu qui l'invite à ne pas revenir sur sa décision. À l'occasion, il l'encourage à poursuivre cette opération dans d'autres facultés aussi au pays. Alain Laoui et Jean Paris Rennes-Beaumont.
Nous le félicitons d'abord d'avoir pris une décision courageuse comme ça. Beaucoup d'années après, il est le premier à faire les états généraux. Au fait, il a bien pensé par commencer par la médecine, car la médecine, son champ d'application, c'est le corps humain. Donc, un médecin ne peut pas être n'importe qui et il ne peut pas être formé par n'importe qui aussi et n'importe où. Mais aussi, il doit continuer son affaire parce que nous savons que la médecine n'est pas la seule option. Il doit étendre cela partout. En fait, nous savons qu'il y a des extensions qui pullulent dans notre pays qui sont sont en train de ternir l'image de l'universitaire congolais de partout ailleurs. Et nous voulons l'encourager, le soutenir pour dire que ce qu'il a fait reste vrai et bon, qu'il ne soit pas en tout cas pris par n'importe quel vent pour revenir en arrière. S'il y a des universités qui ont vu leurs étudiants frappés, en réalité, c'est là les cas selon les études peuvent être déversés ailleurs ou suivant, ils peuvent solliciter une institution ailleurs. Mais quant à ce que nous avons entendu, solliciter du Conseil de l'État de l'annulation de cette décision, en tout cas personnellement, nous ne sommes pas contents.
Actualité internationale.
Au moins 8 personnes sont mortes et 7 autres blessées lors de l'explosion d'une voiture piégée en Somalie. Revendiquée par les Shebab, cette attaque s'est produite en fin de matinée ce samedi sur un checkpoint à 1 km du palais présidentiel. Selon un témoin, le véhicule a explosé lors d'un contrôle des gardes de sécurité. Mogadiscio est régulièrement attaqué depuis l'insurrection terroriste de 2007. Les Shebab visent des bâtiments du gouvernement alors qu'ils contrôlent déjà des vastes territoires en région rurale. En rapport avec le terrorisme, visite ce samedi des présidents du Mozambique, du Rwanda, Philippe Nyusi et Paul Kagame dans la province des Cabo Delgado pour évoquer une phase de consolidation dans la lutte contre les Shebab avec le renfort des soldats rwandais. Le Mozambique et le Rwanda ne fêtent pas encore le succès, a déclaré le président mozambicain lors d'une conférence de presse à Pemba, capitale de la province du Cabo Delgado.
L'invité.
Notre invité est Kassim Diagne, chef adjoint de la MONUSCO en charge des opérations et protections, qui a clôturé hier vendredi sa mission d'itinérance à Uvira. Il a rencontré le Conseil urbain de sécurité d'Uvira. Il s'entretient avec Fiston Goma autour de cette mission.
Kassim Diagne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez rencontré le membre du Conseil de sécurité d'Uvira. Quel a été l'objet de votre rencontre?
C'était une rencontre de suivi dans mes fonctions de représentant spécial adjoint chargé des opérations et de la protection des civils. Il est de mon devoir de temps en temps de parcourir la région qui est sous ma responsabilité pour m'enquérir auprès des autorités civiles et militaires de la situation, de l'évolution de la situation de la protection des civils. Alors dans le site Kivu et plus particulièrement dans les hauts plateaux, moyens hauts plateaux, il y a une situation sécuritaire assez sensible avec donc la présence des groupes armés qui continuent de sévir sur ces populations civiles. Et ensemble avec le maire d'Uvira et l'ensemble des membres du comité de sécurité civile, nous avons fait le point sur les opérations militaires conjointes entre les FARDC et la MONUSCO et les progrès que nous avons réalisés, les défis qui restent à surmonter et s'accorder sur un certain nombre de points de la coopération. Une coopération que je magnifie, qui est excellente et qui continue d'être au centre du travail conjoint que nous faisons. Et j'aimerais vraiment saisir cette occasion pour remercier le maire et l'ensemble des autorités de la ville pour, en tout cas, l'accompagnement.
C'est la deuxième ou la troisième mission d'itinérance ici dans la région. Hier, vous avez été dans le Haut-Plateau, à Minembwe et à Kaololo, rencontrer les FARDC, les déplacés. Aujourd'hui, vous avez rencontré les différentes couches sociales. Qu'est-ce qui a évolué par rapport à la protection et aux opérations?
Ce qui a évolué, c'est qu'en tout cas, nous avons accru notre présence sur ces zones-là dont vous venez de parler. Et la MONUSCO a accru sa présence, mais plus important, les forces de défense sécurité ont aussi accru leur présence. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de déploiement de soldats, des troupes de la FARDC, mais aussi de la police nationale congolaise. Donc ça, c'est un acquis assez important parce qu'il y a quelques mois, il y avait quand même des effectifs assez réduits. La présence civile est aussi un peu plus prononcée. Là où on a encore quelques difficultés, parce que pour être franc avec vous, c'est au niveau des opérations humanitaires et opérations d'assistance. C'est une région extrêmement difficile d'accès. Il n'y a pas beaucoup de routes et pour l'instant, l'accès demeure un problème. Et c'est sur ce volet-là qu'on est en train de travailler avec les agences humanitaires, avec les autorités civiles et militaires. Mais je peux vous assurer en tout cas qu'au niveau de la sécurité, il y a un renforcement assez notoire qui est en train de s'opérer. Et bientôt d'ailleurs, je crois que nous allons avoir des évolutions assez positives par rapport à ces opérations militaires.
Pouvez-vous donner des éclaircissements sur le plan de transition signé récemment par la MONUSCO et le gouvernement congolais à Kinshasa?
Effectivement, le Premier ministre, son Excellence le chef du gouvernement et Madame la représentante spéciale des Nations Unies de la MONUSCO ont donc signé ce plan de transition, comme nous l'a demandé le Conseil de sécurité, qui prévoit un retrait responsable, graduel et ordonné de la MONUSCO à l'horizon 2024. Ce plan est axé sur plusieurs points, mais pour me résumer, il y a trois points essentiels sur lesquels nous allons renforcer la collaboration. Premièrement, la sécurité et la protection des civils. Travailler jusqu'à ce que les groupes armés puissent être neutralisés. Donc on travaille conjoint pour cela. Le deuxième axe, c'est l'axe du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire, de la stabilisation. Comme vous le savez, Son Excellence le chef de l'État avait signé début juillet l'ordonnance mettant en place ce programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Un coordonnateur a été nommé, il y a un travail qui est déjà en cours. Et puis troisièmement, c'est travailler ensemble entre le gouvernement et la MONUSCO pour le renforcement de l'autorité de l'État pour accompagner les réformes institutionnelles nécessaires qui puissent faire que, par exemple, un maire d'Ouvira qui est ici puisse retrouver son autorité sur l'ensemble de sa communauté. Ce plan, il a été soumis au Conseil de sécurité par le secrétaire général et nous attendons donc le retour du Conseil de sécurité sur ce plan qui a été conjointement signé.
Vous quittez Ouvira en ce moment. Quel message pouvez-vous lancer aux groupes armés qui vous écoutent en ce moment, aux communautés ethniques, mais aussi à la population entière d'Ouvira, Fizi et Mwenga?
J'ai deux messages très précis. Déposez les armes. Il n'y a aucun développement, il n'y a aucune paix, il n'y a aucune évolution qui peut avoir lieu dans la violence. La MONUSCO, les autorités congolaises sont là pour vous accompagner. Le deuxième message, c'est à l'endroit de ceux qui véhiculent les messages de division, de haine. Ce n'est pas normal. On ne peut pas utiliser la manipulation politique ou autre manipulation à des fins individuelles ou à des fins pécuniaires.
Merci beaucoup, M. Kassi.
Merci.
Fin de ce bulletin de ce journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi.